dans le forum avec Tony Marinaro, on se branche à Habs Radio.
Notre segment Habs Radio à tous les jours vers 11h, puis les mardis, puis les jeudis, c'est avec Denis Gauthier d'RDS. Denis, comment ça va?
Bon matin, Tony. Comment vas-tu ce matin? Moi, ça va très bien.
Excellent. Éric Auziel et Alex Lanto sont avec moi. André Tourigny, hier, dans le retour des sportifs avec Martin Lemay, a parlé de Lane Hudson.
Il est meilleur qu'il était la première fois qu'on l'a joué. La première, parce que quand les spectateurs aiment bien ça quand le gars garde la rondelle.
Ouais.
Quand tu gardes la rondelle pendant ça, là, les autres patinent pas. Là. Tes autres joueurs, là, souvent, ça, ils attendent.
Ton
statut. Là, je te dirais qu'il y a beaucoup plus de rythme. Je dirais qu'il a vraiment bien joué contre nous autres. Il a bougé le parc, il y a beaucoup plus de give and go, beaucoup plus de. Il était beaucoup moins prévisible dans ses décisions et bien progressé.
Denis, qu'est-ce que tu en penses?
C'est tellement pointueux puis accurate, là, vraiment en accord avec son point. Les premiers 20 matchs, pour moi, dans le cas de Lane Hudson, il y a eu une période d'adaptation qui a été infiniment plus courte que plusieurs autres joueurs de la Ligue nationale lorsqu'ils arrivent à ce niveau-là. Je te dirais qu'il y a beaucoup de jeux qui étaient individuel, tu sais, il voulait transporter la rondelle, il l'amenait d'un bout à l'autre de la patinoire, puis plus près du filet adverse ou plus près, tu sais, en arrivant au top des cercles, rendu dans la zone offensive, c'est là qu'il décide de faire son jeu. Maintenant, il y a beaucoup plus de dynamisme, mais dans les trois zones. C'est pas nécessairement lui qui doit et qui veut transporter la rondelle, c'est il la transporte quand il y a de l'espace, il choisit ses moments, quand il est restreint, quand il manque d'espace, il donne la rondelle, puis il se découvre tout de suite pour se repositionner, pour la recevoir à nouveau. Fait qu'il y a un il y a comme une nouvelle des nouvelles armes qui est en train de nous démontrer sur la patinoire présentement. Puis c'est absolument fou. Puis je pense que j'écoutais, ça se peut-tu, c'était hier, c'est avec Brian Wilde, tu faisais ton podcast, puis il expliquait les premiers 20 matchs, les deuxièmes 20 matchs, comment que c'est totalement différent dans son jeu, même s'il est aussi excitant, électrisant et fun à regarder. Au niveau de son efficacité, c'est un monde de différence déjà. Puis ce qu'il nous démontre récemment, c'est vraiment du jeu élite avancé. Avant, c'était le fun, c'était un spectacle, c'était un show. Maintenant, c'est du hockey plus efficace, c'est du hockey qui va t'amener beaucoup plus à gagner des matchs à long terme et gagner des championnats éventuellement.
Denis, si tu es un entraîneur dans la Ligue nationale puis tu vas jouer contre le Canadien, contre Lane Hudson, on voit maintenant que il prend la rondelle. Il analyse la situation. Est-ce que je dois y aller? J'y vais? Ouais. Oui, non. Mes joueurs doivent aller au banc pour faire un changement dont lui, il sac dans la zone neutre puis il prend son temps. Bon, là, il rentre dans la zone adverse. Quand il rentre dans la zone adverse, nous, il nous l'a déjà dit. Qu'est-ce qu'il aime faire? Il aime créer de la confusion. Il aime attirer 2-3 joueurs adverses envers lui qui va donner des ouvertures à ses joueurs à lui, ses coéquipiers, pour les mettre dans un chance de marquer et leur refiler la rondelle. On sait maintenant c'est ça qu'il veut faire, qu'il aime faire, nous l'a dit, puis on le voit. Si tu es un coach qui joue contre lui, et lui, il rentre en zone adverse avec la rondelle, et un gars va après lui, puis pas l'avoir. Et là, un deuxième va aussi, puis là, le troisième va aussi. Maintenant que tu sais que c'est comme ça qu'ils jouent, qu'est-ce que tu dis à tes joueurs?
c'est un grand casse-tête, un grand mystère, parce qu'il peut te battre de tellement différentes façons, puis il a le don d'hypnotiser l'adversaire. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde. Tu te mets à l'observer, tu te mets presque à l'admirer comme joueur. Tu sais, t'as des talents sur la patinoire que je me souviens, quand j'étais sur la patinoire, j'ai regardé aller, puis c'était... T'sais, autant je voulais les frapper et les défendre, autant je pouvais pas m'empêcher de juste être en admiration envers eux. T'sais, un Mario Lemieux est un exemple. Totalement différent, là, mais on les admire pour... Il hypnotisait son adversaire par différents atouts et différents talents. Mais dans le cas de Hudson, c'est clair, c'est qu'il faut que tu y enlèves le temps et l'espace. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. T'sais, il est toujours en mouvement, il est jamais statique, il a toujours la tête bien haute, il est toujours à la recherche d'une passe, fait que t'es toujours vulnérable, tu te fais souvent prendre entre deux positions, entre être trop agressif et être trop patient. Ça, c'est exactement ce qu'il veut. C'est parce que ça lui donne une petite seconde de plus pour faire son geste, pour faire ses feintes, trouver des lignes de passe, trouver des lignes de tir, trouver des trous, des espaces libres sur la patinoire. Donc, tu sais, c'est juste important d'être en mode un peu plus contrôlé quand tu veux le défendre, je vais le dire comme ça, c'est que tu veux être agressif, mais tu veux pas te commettre trop de façon trop intense, parce que 99 fois sur 100, tu vas te faire battre. Tu vas te faire battre parce qu'il est très dynamique, ses trois premiers pas sont très rapides. Donc, il va être capable de battre un contre un, il va ouvrir ses lignes de passe, il va les créer lui-même, ses lignes de passe. Fait que, tu sais, c'est toujours une question de garder à l'œil, contrôler, reste sur le côté défensif, puis, tu sais, encore une fois, plus facile à dire qu'à faire, mais si t'es capable de l'amener dans une zone inconfortable au niveau du jeu physique, ça, c'est toujours à ton avantage, mais bonne chance de l'attraper, parce qu'il y a plusieurs joueurs qui ont essayé cette saison, puis qui ont été incapables.
Il y a 20 ans, Denis, c'est ce qui est incroyable, c'est que en demi-saison, il a appris des choses. Tu sais, puis ce que je vais dire, c'est pas pour dénigrer Piqué Subban, mais quand le coach Torini disait, des fois, il gardait la rondelle trop longtemps en début de l'année, Piqué avait tendance à faire ça. Puis les gars, tu voyais que ça les freinait un petit peu. Mais Hudson s'est adapté en une demi-saison à 20 ans. Ce gars-là est intelligent. Non seulement il est rapide,
mais je trouve que Piqué allait bombe en ligne droite, puis forcé parce tournait, qu'il y avait...
Moi, je trouvais que Piqué gardait la rondelle trop longtemps. Il tournait beaucoup. Tu comprends? Puis il donnait un show. Il donnait un show.
Oui.
Mais dans le cas de Lane Hudson, je trouve que lui, il est ailleurs. Il est une coche au-dessus au niveau de son intelligence et de sa vision du jeu.
Ben, t'as vraiment raison. Puis je vais essayer de le mettre dans des mots qui sont très polis, parce que j'ai énormément de respect pour Piqué Subban, puis son talent, puis sa personnalité, et tous les à côté. Mm-hmm. Mais Piqué Subban est un bon joueur pour Piqué Subban. Lane Hudson, pour moi, est un bon joueur pour le Canadien de Montréal. Puis, tu sais, je veux faire attention, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment Piqué, puis moi aussi, je l'aime, là, tu sais, mais il y a des raisons pourquoi l'éventualité, c'est qu'il a été obligé de bouger de Montréal, puis on l'a bougé, puis il s'est bâti une réputation, mais Piqué est un joueur extrêmement talentueux, qui était créatif, mais qui voulait faire des jeux beaucoup par lui-même, puis qui était beaucoup, tu sais, je vais dire, centré sur lui-même, mais tu sais, je veux faire attention, là, j'ai beaucoup de... Mais dans le cas d'Hudson, lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il fait pour le bien de l'équipe, pour avancer la rondelle, pour amener de l'offensive pour son équipe. C'est pas un gars qui... Je suis pas sûr qu'il est aussi confortable d'être sous les projecteurs, puis d'être sous le spotlight que Piqué l'est, je vais le dire comme ça.
Est-ce qu'on peut dire que Piqué, peut-être, était un joueur pas dans la structure?
Oui, probablement plus.
Ouais.
Puis ça veut pas dire qu'il avait pas son utilité, puis qu'il était pas bon. Puis il avait beaucoup, beaucoup de talent.
Beaucoup de talent.
Mais je pense que dans le cas de Hudson, c'est un meilleur joueur de hockey. Puis qu'il avait beaucoup de talent, Hudson, c'est un meilleur joueur de hockey.
Le Sick Podcast de Pierre Maguire, Jimmy Murphy, hier, ont accueilli le légendaire Scotty Bowman. On écoute Scotty Bowman.
Serge Savard doesn't say much about Canadians now, but He mentioned his name to me. He said, "This guy is really something."
Wow.
So, you know, I mean, he watches the game. I don't think he goes to the games all the time, but he said he's got everything. He said he's got confidence. He's got, you know, he can make plays that a lot of players, and it's showing up in a production now. So, I mean, he's going to be, I mean, whether they like it or not, the observers are going to have to put him in the mix for certainly the... You got the rookie, and also you talk about the Norris now.
For sure. I agree.
The other two defensemen in the league that, to me, that play and run games, Makar, we know, and Hughes in Vancouver. They're so special, you know, and they play so consistently. When they're not on the ice, the game changes. Same as now with young Hudson.
C'est intéressant qu'il dit qu'un commentaire a commencé. Il dit, je suis bien chum avec Serge Savard. Puis il dit, Savard, il regarde pas toutes les matchs des Canadiens. Il va pas toutes les matchs des Canadiens. Mais Serge Savard me parle de Lane Hudson. Puis il me dit, Scotty, ce joueur-là, il est vraiment spécial. Il dit, il va falloir que les gens qui dénigrent, les gens qui critiquent, mettent à l'évidence. Le gars récolte ses points. Il dit, puis il y a deux joueurs dans la ligue. Il dit que quand ils sont pas sur la glace, le jeu change en faveur de l'autre équipe. Puis il dit, ça, c'est Makar, puis ça, c'est Hughes. Il dit, mais Hudson est dans cette catégorie-là.
Pour moi, il n'y a aucun doute. Puis on est chanceux d'être témoin d'un joueur comme Lane Hudson présentement, puis de le voir à ses débuts, puis on est chanceux d'être, si tout va bien, puis reste en santé, puis continue à s'améliorer, on est chanceux d'être témoin de sa carrière dans notre génération présentement. C'est un... C'est un défenseur qui est unique. C'est un défenseur qui, on va regarder quand sa carrière va terminer, puis il va dire, il va être un des très bons, d'un des meilleurs défenseurs de sa génération, je le pense. Par son talent, par son dynamisme, par son offensive. Et son sens de responsabilité continue de développer. Écoute, la dernière fois qu'il a été un différentiel négatif, ça fait presque un mois, là. Tu sais, le 20 décembre, c'est la dernière fois qu'il y a eu un match, il était moins, dans un match, moins deux. Donc, ses responsabilités défensives sont aussi en développement, sont tout, il est responsable, il est bon, il est beaucoup meilleur que ce que les gens lui donnent crédit. Puis c'est ça, il y a la capacité de changer chacune des présences qu'il est sur la patinoire. On dirait que le niveau d'électricité monte quand lui embarque sur la patinoire. Que ça soit 20 secondes, que ça soit 40 secondes, que ça soit à 5 contre 5 ou à 5 contre 4, il y a comme un niveau d'excitation qui est palpable, qui est voyé, tu l'entends, tu le sens, puis que tu sois au Centre Bell ou que tu sois à la maison, tu t'attends à ce que quelque chose arrive et tu sais qu'autrement, il y a quelque chose qui va se passer sur la patinoire quand il est là. Donc, moi, je nous considère très chanceux d'être témoin d'un joueur comme Nate Hudson parce que ça fait longtemps qu'on en veut un, qu'on en cherche un, puis on se dit toujours, ils sont toujours ailleurs, ces gars-là. Les vrais gars de talent, là, ils sont toujours dans des autres organisations, puis on n'en a jamais.
Ouais.
Là, on en a un. Profitons-en.
Eric Auziel, Lane Hudson a brûlé la première année de son contrat l'année passée avec les deux matchs qu'il a joué à la demande de son agent, évidemment. Année numéro 2 cette année. L'année prochaine, année numéro 3.
Ouais.
Puis ça va être un nouveau contrat à ce moment-là.
C'est drôle que tu dises ça.
Contrat pont ou contrat à long terme?
Ben, je voulais vous poser la question parce que moi, j'ai mon opinion là-dessus. Est-ce que Kent Hughes doit briser sa promesse qu'il a faite en juin 2023 quand il a dit Nick Suzuki va toujours être le joueur le mieux payé dans l'organisation?
Est-ce qu'il a dit ça ouvertement?
Oui, il a dit ça. Oui, moi j'ai sorti la citation. Là. Il l'a dit quand il a signé Caulfield, il a expliqué que Nick va toujours être le joueur le mieux payé. Est-ce qu'il l'a pas nécessairement dit pour les 20 prochaines années, mais il a dit que c'était son objectif. Ma question, on sait que Hughes fait 7.8.
Oui, mais c'est un peu étrange parce que Patrick Laine gagne plus que Nick Suzuki.
Oui, mais Laine, c'est pas lui qui l'a signé.
Mais c'est pas lui qui a signé Nick Suzuki non plus.
Non, mais il a dit que Nick Suzuki serait celui qui serait le mieux payé. Pour l'instant, parce que c'est son capitaine. C'est ce qu'il a dit. Va voir la citation, je pense que c'est le 10 juin 2023. Okay. Mon point est, sachant que Hughes fait 7.8, mais Makar fait beaucoup plus, tu comprends? Je pense que, qu'est-ce qu'on fait avec Hudson? Est-ce qu'on lui donne 9, 10, 11?
Denis?
Écoute, la seule chance qu'on a de signer pour moins que Suzuki, c'est le fait qu'il a brûlé sa première année de contrat l'année passée.
Mm-hmm.
Pourquoi? Parce qu'on le sait, le contrat, on va le signer cet été. D'accord? Donc, tu le signes après une seule saison de production offensive, une seule saison, puis là, tu dis, ouais, mais tu l'as prouvé juste une fois tout ça. Si jamais on l'avait pas brûlé cette année-là et qu'on signe Hudson après deux saisons, puis qu'il nous donne deux saisons de 50, 60, 65 points, là, t'es brûlé, t'es mort. T'es obligé de le signer à 10, à 9 ou à 11. T'sais, parce que là, la masse salariale va monter. Le plafond, excusez-moi, le salarial va monter.
Ouais.
Donc, le pourcentage change. Fait que t'es obligé de le signer plus que Suzuki. Là, je pense que t'es déjà dans le trouble. Tant qu'à moi, si tu veux le signer en bas du salaire à Suzuki, puis tu sais, à un moment donné, la réalité d'un joueur, c'est que tu pourras pas retenir, tu pourras pas, ce plafond à l'interne que Suzuki est présentement chez le Canadien, tu pourras pas le garder éternellement. Parce que le plafond continue de monter, les masses salariales augmentent, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va défoncer ce plafond-là. Puis je pense qu'il n'y a pas personne d'autre présentement qui est mieux positionné que Lane Hudson pour le faire, parce qu'il va devenir un des 3, 4, 5 meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue très, très rapidement.
Denis, on attend Pierre Maguire là-dessus sur le prochain contrat de Lane Hudson.
Hey, Pierre, put your GM hat on. 1 year, entry level left on Lane Hudson. How would you handle him in terms of the contract? Do you look at a bridge deal? Or you pay the player how much term?
I would pay the player 8 years.
Me too.
I want to get this done before the new collective bargaining agreement comes in. And I'm not even wasting time on a bridge with him. Star player. Not even. I said this. I'm going to stay as close to the line as I can. I said this before Subban got signed to a bridge, and I said all it's going to do is cost you tens of millions of dollars. I said that on, you can go check it out. I said it right away. And look what happened. Signing to a bridge cost them tens of millions of dollars and eventually cost them the player.
Yep.
So I would not even waste time. We did the Tkachuk deal in Ottawa as a group, as a management team, 8 years. Don't mess around with those players.
Denis, c'est simple.
C'est écœurant. C'est vraiment ça. C'est parce que là, il y avait une discussion dernièrement qui était avec la nouvelle convention collective qui sera négociée prochainement. Peut-être qu'on voudrait maximiser les contrats à 5 ans maximum, la durée. Tu sais, t'es dans le trouble, c'est que là, t'es obligé 3 ans plus vite de renégocier Hudson, s'il devient agent libre sans restriction, tout ça. Fait que t'es bien mieux de le sécuriser le plus rapidement possible, puis tu sais, de le faire là avant qu'il devienne un gagnant du trophée Norris, puis que là, il y a vraiment toutes les munitions pour négocier avec Kent Hughes et le Canadien pour faire sauter la banque. Mais tu sais, il a raison. Tu niaises pas avec un talent comme ça. Ouais. Quand t'es GM, puis que t'es une superstar, pour utiliser tes mots, Tony, t'es une superstar dans ton équipe, tu prends pas de chance. C'est un bon kid, c'est un bon travaillant, une bonne attitude, il fit dans le moule, il fit dans le caractère, dans l'identité de ton équipe, puis il a tout le talent du monde. T'attends pas. Le plus rapidement tu peux le signer, tu le signes 8 ans. Dépêche-toi avant qu'il change d'idée.
Éric, pour les gens qui l'ont pas compris, parce qu'évidemment c'était en anglais, il dit, quand les Canadiens ont donné le contrat pont à Piqué Subban, il dit, Pierre Maguire dit que lui avait dit dans le temps, là, c'était un erreur parce que ça va finir par te coûter des millions de dollars de plus. Puis il dit, c'est ça qui est arrivé avec Piqué Subban. Il dit, Lane Hudson, c'est un joueur vedette. Tu perds pas de temps. Et les joueurs de vedette, il dit, les joueurs vedettes, tu niaises pas avec ces joueurs-là. Mm. Il dit, nous, comme organisation, on a signé Brady Tkachuk un contrat à long terme à Ottawa. C'est un joueur vedette. Lane Hudson, c'est un joueur vedette du Canadien. Tu le signes 8 ans, tu donnes le maximum. Puis Denis, je vais dire ça aussi, là, les gars. C'est que... OK. Comment je peux le dire? Quand ils ont donné le contrat long terme à Slafkovský, quand tu donnes un contrat long terme, tout de suite, à un joueur après son premier contrat, à long terme, il y a des risques. Il y a des risques, ça dépend. Peut-être le joueur, il va dire, ah, j'ai un contrat à long terme en poche, j'ai des millions. Et des fois, un joueur peut s'asseoir sur son contrat. Ce qui est de là, je pense qu'il n'y a pas de risque. Hein?
Il est trop bon. Il est trop rapide, il est trop bon. Puis,
mais c'est un gars qui ne ressent pas la pression non plus. Il a l'air de jouer.
Mais tu le vois quand il est sur la glace et qu'il a été responsable d'un but, tu vois sa réaction, son langage corporel, il prend personnel, tu vois que c'est un gars là, qui est vraiment engagé, il doit être excessivement dur envers lui-même, il veut apprendre, il apprend vite, là. Denis en a parlé, 20 matchs, puis il a ajouté plein de choses, André Tourigny l'a dit, et ça, il faut donner crédit à l'équipe d'entraîneurs du Canadien de Montréal, mais moi, j'ai pas de doute sur ce gars-là, il est bon, il est déjà bon, il est arrivé, il a 20-21 ans, c'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire, mais on disait la même affaire de Quinn Hughes puis de Makar. Puis on pourrait dire la même chose d'un autre gars qui domine cette année, c'est Waronski à Columbus.
50 points.
Il est très bon aussi.
Oui, c'est la meilleure année en carrière.
Oui, exactement. Mais
c'est qui ton gardien ce soir? Parce que le Canadien, on va le savoir environ à 12h15. Éric, on va commencer avec toi. C'est qui ton gardien
ce soir? Moi, j'irai avec Dobesch.
Toi, t'irais avec Dobesch.
Oui, j'irai avec Dobesch.
Denis, Canadien joue samedi et dimanche Toronto et les Rangers. Ce soir à Dallas, c'est qui ton gardien?
J'ai beaucoup aimé la performance de Montembeau dans le dernier, mais moi aussi, j'ai aucune crainte de mettre Dobesch. Il est prouvé, les défis importants contre des gros clubs, il les a eu, pas intimidé. Montembeau a joué beaucoup de matchs dans le dernier mois avant que Dobesch arrive. Il joue ses quelques matchs depuis son arrivée. Il va arriver aux Quatre Nations bientôt aussi. Ça donne rien de le brûler. Fait que moi, j'ai aucun problème de mettre Dobesch ce soir.
Puis Pierre Maguire m'a dit, il dit, Dallas, là, ils ont regardé le livre sur, tu sais, ils ont visionné Montembeau, ils l'ont vu samedi. Ça veut pas dire qu'ils ont pas visionné Dobesch, mais Dallas s'attend peut-être à Montembeau. Ils sont préparés pour lui. Donne-y le filet, dit à Dobesch. Puis tu sais, Dobesch à 3-0, là, avec les statistiques qu'il a, je pense qu'il peut mériter un départ d'ici là, de temps en temps.
Oui, puis ils sont plus que... Les gardiens de but sont exceptionnels depuis quelques matchs, mais c'est une équipe, là. Ce ne sont plus que des performances de gardiens de but.
Denis, la fin de semaine n'est pas encore là. Évidemment, on est jeudi, mais on va se parler encore... on va se parler de nouveau mardi. Bon match ce soir, puis bonne fin de semaine à toi.
Bon week-end à tout le monde, puis merci encore, Eric, d'être là. C'est toujours le fun de jaser avec toi aussi.
Tony m'a dit, veux-tu rester? Je dis, moi, je veux entendre Denis. C'est ça que je veux.
Merci, Denis.
Merci, Denis. Bye-bye. Beaucoup de plaisir avec vous. Salut.
Nous aussi. Merci.